dis pas si, fais pas ça. J'ai pas pu quand j'ai dû, pourtant je l'ai tenté mille fois. Tenter l'air de la ville, le quotidien qui défile. Moi je respire quand se dessine enfin ma sweet Caraïbe. Alors je prends l'instant qui passe et prends le temps de le voir qui trace. Sans jamais baisser les bras, jamais baisser les bras, jamais. Keep on walking, yeah. Mais moi j'écoute la pluie et je regarde les gens se dépêcher. Je t'attendrai toute la vie s'il le fallait, s'il le fallait. That love, give me that love, give me that love.
Radio de la paix, il est 12h. Le journal du midi, Mel Emmanuel.
12h en Côte d'Ivoire et en temps universel, bonjour à tous. Un atelier de renforcement de la cohésion sociale et de prévention de l'extrémisme violent a été organisé dans la région du Bounkani, une initiative du Forum des ONG de la Société civile de l'Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire. À Madagascar, une affluence modérée observée ce jeudi 16 novembre, jour de l'élection présidentielle. Aussi, dans ce journal, vous aurez un dossier d'actualité sur la journée nationale de la paix à Divo avec Abel César Cassin. Et l'invité de la rédaction ce jeudi est la présidente fondatrice de l'Union républicaine pour la démocratie, URD. Interrogée par Soro Adams, Daniel Bonny-Clavry reviendra sur deux dossiers majeurs, la journée nationale de la paix et l'annonce faite par Soro Guillaume le dimanche 12 novembre dernier, celle de mettre fin à son exil. Un entretien que vous retrouverez en fin d'édition. Bienvenue à tous. Le Forum des ONG de la Société civile de l'Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, vient de renforcer les compétences des membres des comités de paix et des cellules civilo-militaires de Bouna, Teini et Doropo sur la gouvernance des zones nord et nord-est de la Côte d'Ivoire. Objectif, consolider la cohésion sociale et prévenir l'extrémisme violent dans la région du Bounkani par des mécanismes traditionnels et modernes. De Bouna, pour Radio de la Paix, Jérôme Kouassi.
Des facteurs de vulnérabilité auxquels sont confrontés les comités de paix et les cellules civilo-militaires de la région de Bouna. Sawadogo Suleiman, secrétaire général du comité de paix de Teini.
Il y a l'orpaillage clandestin qu'on n'arrive pas à contrôler. L'arrivée aussi des réfugiés qui a augmenté le nombre de populations. La stigmatisation de certaines communautés. Les conflits fonciers, puisque les terres ne sont pas délimitées. La frontière n'est pas matérialisée. Donc vous voyez que c'est très très difficile de gérer ce genre de situation.
Pour quelques actions déjà menées, si c'est la mine, président de la cellule civilo-militaire de Bouna.
Nous créons des cadres de concertation dans les villages.
Au niveau de Doropo, nous menons des activités récréatives.
Dans les mécanismes d'alerte et de prévention sont associées les femmes. Dame Palais Eri Onodivine du comité de paix de Teini.
Parce que les hommes ont compris qu'aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses. On peut nous associer.
Le rôle d'un comité de paix dans la gestion des conflits et des préventions de l'extrémisme violent. Drissa Soulama, le coordinateur national du forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire.
Les terroristes aussi se nourrissent effectivement des conflits qui existent entre nos différentes communautés. Différentes communautés qui sont représentées ensemble, qui s'entretiennent, qui discutent les paix. Et donc réfléchir à renforcer les liens entre ces différentes communautés-là pour non seulement réduire les risques de conflits et prévenir effectivement les semaines violentes.
Cet atelier s'inscrivait dans le cadre du projet Appui au renforcement de la gouvernance des zones nord et nord-est pour consolider la cohésion sociale et prévenir l'extrémisme violent en Côte d'Ivoire. Un projet financé par Open Society Africa, Jérôme Kouassi Krou, Bouna, Radio de la Paix.
Nous restons dans le Bounkani, toujours sur le même sujet. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été sollicitée pour intervenir sur la communication non violente. C'était à l'occasion d'un atelier de dialogue socio-sécuritaire tenu du 10 au 11 novembre 2023 à Doropo, zone de fragilité face à l'extrémisme violent. Écoutons la communication faite par le chercheur au département de la recherche de la paix de la Fondation, Ya Jérôme Kouakou.
De manière à créer la confiance, optimiser au mieux la collaboration et la confiance entre les forces de l'ordre et la population civile pour contrer ensemble de manière conjointe la lutte contre l'extrémisme violent, le terrorisme. Vous savez que il y a l'insécurité, la menace du terrorisme et l'extrémisme violent qui circule ça et là. Et donc nous voulons créer vraiment cette mutualisation, capitalisation des actions communes pour lutter véritablement de manière pacifique contre l'extrémisme, puisque depuis depuis 1770 que les extrémistes ont la connu pour la première fois en France. L'utilisation de la force militaire n'a jamais pu vaincre les extrémistes. Il faut continuer à trouver autre moyen de manière pacifique, amener les uns et les autres à créer vraiment un cadre de discours d'échange, de la convivialité, la fraternité, l'union, et pour créer la cohésion sociale et surtout parvenir aux objectifs assignés au développement humain que nous attendons tous. Donc la Fondation est très fière d'avoir participé à cet atelier.
Parlons règlement de conflits avec les populations du district du Zanzan, région du Gontougo. Au plan juridique, le jugement et l'arbitrage sont les mécanismes traditionnels de gestion pacifique de conflits, faisant partie des us et coutumes bron encore en vigueur. Un pan de la tradition bron expliqué par Dr Frédéric Sécré-Kwamé, enseignant d'histoire à l'université Alassane Ouattara de Boaké.
Il y a le jugement, mais il y a ce qu'on appelle l'arbitrage. C'est-à-dire l'autre ne va pas au tribunal, on ne te juge pas, on ne t'amende pas. Ça qui est l'arbitrage. Mais c'est à degré, parce qu'on regarde, ça dépend de ce que vous avez fait. Donc d'abord, c'est dans la famille, on gère l'affaire. L'autorité est donnée au chef de famille de régler certaines affaires. Lorsqu'il n'arrive pas, il y a le chef de cour. Lorsqu'il s'agit d'un jugement, là, c'est devant le chef du village. Il s'est hiérarchisé. Lorsque le chef du village a jugé et que le plaignant n'est pas content du jugement de l'affaire, il peut faire appel au tribunal supérieur. Ça ne se fait pas comme ça. Le chef, quand il juge l'affaire, il rend compte à sa hiérarchie également. De sorte que, demain, quand un problème arrive, alors le chef hiérarchique saura comment juger. Les sabrons tiennent des réunions pour régler les problèmes. Et on ne résout pas soi seul le problème. C'est en famille. Quand il s'agit des affaires publiques, alors c'est ouvert à tout le monde. Alors c'est ouvert, c'est là les jeunes doivent venir pour assister. De sorte que demain tu puisses donc prendre la relève.
Les propos de Ya Jérôme Kouakou et Frédéric Sécré-Kwamé ont été recueillis par Jérôme Kouassi. Relations entre l'Arabie Saoudite et l'Afrique. Plusieurs chefs d'État africains, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, ont pris part le 10 novembre dernier au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique, un sommet qui avait pour thème développement et prospérité, agriculture, éducation, santé et aide humanitaire. Quelles pourraient être les retombées d'un tel sommet pour le continent africain? Élément de réponse avec Dr Germain Cramaud, enseignant d'économie à l'université Félix Houphouët-Boigny et chercheur à la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, CAPEC.
Les relations internationales sont en train de se remodeler, donc chacun essaie de se positionner. Donc c'est dans ce cadre que l'Arabie Saoudite essaie de se positionner en Afrique aussi, qui est le continent d'avenir.
Alors concrètement, que peut apporter l'Arabie Saoudite à l'Afrique et qu'est-ce que l'Afrique peut apporter à l'Arabie Saoudite?
L'Arabie Saoudite peut beaucoup apporter déjà à l'Afrique. Il faut dire que sur les questions humanitaires, l'Arabie Saoudite intervenait en Afrique depuis plusieurs années. Donc sur les questions humanitaires, assistance aux personnes défavorisées, appui à la construction d'écoles, de mosquées, la promotion de l'islam grâce au fonds saoudien. Et ce qu'il faut noter aussi, que l'Arabie Saoudite intervenait souvent en partenariat avec d'autres organisations comme la Banque africaine de développement, parce que l'Arabie Saoudite est membre du groupe de la Banque africaine de développement depuis 1983. Donc à ce titre, elle coopère avec la Banque africaine de développement pour réaliser certaines infrastructures. Donc c'est dans cette perspective que cela va se poursuivre. Mais en termes de réalité économique, nos relations économiques entre l'Afrique et l'Arabie Saoudite en termes de relations commerciales ne pèsent pas trop dans la balance pour le moment. Parce que si nous prenons les exportations de l'Afrique vers l'Arabie Saoudite, c'est autour d'environ 5 millions de dollars. Et en termes d'échanges économiques, ce n'est pas encore aussi important. Mais je pense que ces gens du sommet vont contribuer à renforcer cette relation entre l'Afrique et l'Arabie Saoudite.
À l'instant, Dr Germain Cramaud, interrogé par Jean-Claude Comé. Le Conseil du coton et de l'anacarde a organisé le mercredi 8 novembre dernier à l'auditorium du FIRCA un atelier sur les acquis et perspectives de son laboratoire d'analyse des sols mis à la disposition des producteurs pour une agriculture durable. On écoute à cet effet les explications du Dr Adama Koulibaly, DG du Conseil du coton et de l'anacarde.
Le laboratoire, c'est un peu la clinique des sols, c'est aussi la clinique des plantes. Le milieu vivant est appelé donc à tomber malade, à avoir des déficits, à s'appauvrir, etc. Et le laboratoire permet donc de révéler, je vais dire, les maladies du sol en termes donc de déficience, en termes de constance et permet donc aux agriculteurs qui font appel à ce titi d'adapter et de raisonner la fumure qu'ils apportent au sol. En d'autres termes, les médicaments qu'ils apportent au sol pour que ce sol continue de produire. Et donc, au bout de quelques années de fonctionnement, on se rend compte que c'était un outil extrêmement utile qui était attendu par les professionnels, qui a près de 200 000 échantillons qui ont été analysés déjà par ce laboratoire, et ce qui est un indicateur pertinent de l'utilité et donc de ce laboratoire. Ce laboratoire donc est utilisé par les professionnels, les organisations des producteurs de la filière coton et la filière anacard, qui sont donc les deux spéculations qui animent économiquement les régions nord, mais pas seulement. Ce laboratoire donc est utilisé par un certain nombre d'institutions. Je pense à l'université Pelefrogon-Kouivalik, à l'école d'agronomie de Yamoussoukro.
Les propos du directeur général du Conseil du coton et de l'anacard, Dr Adama Koulibaly, recueillis par Gapienan Ouattara. Hors de la Côte d'Ivoire, présidentielle à Madagascar, une affluence modérée constatée ce matin dans les bureaux de vote du centre-ville d'Antananarivo. Les bureaux de vote ont ouvert à 6h ce 16 novembre 2023 à Madagascar. Quelques 11,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président de la République. Mais sur les 13 candidats inscrits sur le bulletin unique, seuls 3 appellent à voter, dont le sortant André Rajoelina, qui sollicite un deuxième mandat. Les 10 autres appellent les électeurs à bouder le scrutin. Retour en Côte d'Ivoire avec du football à présent. Les joueuses du Sporting de Casablanca se sont qualifiées pour la finale de leur première Ligue des Champions hier mercredi 15 novembre à San Pedro au détriment des Ghanéennes d'Ampem Darkoa, battues 3-2 au tir au but. Elles affrontent le Mamelodi Sundowns, tombeur de l'AS FAR, 2 heures plus tôt au stade Amadou Gon Koulibaly de Korogo sur le score d'un but à 0. Le coach de l'AS FAR, Mohamed Amin Alioua, au soir de la défaite de son équipe.
C'est que on montre les premières 30 minutes derrière succès dans le Mamelodi, c'est vrai, c'est ça ce qu'on a pu faire, avec un peu de changement par rapport aux disponibilités du joueur qu'on a. Si vous l'avez remarqué, on avait fait jouer avec Hajj en comme excentré parce qu'on n'avait pas assez de alternatives offensives. Mais bon, l'idée c'était d'asphyxier la défense de Mamelodi parce qu'on savait qu'il pouvait pas. Pouvait commettre des fautes, et c'est ça, c'était ça la source des occasions qu'on avait. C'est bien dommage qu'on ne les a pas concrétisées. Mais bon, en deuxième mi-temps, je pense que même les filles elles se sont entrées avec le même état d'esprit, le même envie. Mais bon, quand j'ai dit tu encaisses sur le mal arrêté, ça fait partie du jeu. Je pense que c'était 50-50. Et parfois, sur les, même si il n'y a que le score qui règne maintenant, ils ont gagné que 1-0. Il n'y avait pas de carton, mais sur la première mi-temps, là, juste un petit peu dessus. Le nombre de passes et de statistiques, mais ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le résultat final.
De son côté, le coach de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Jerry Tchabalala, donne le secret de la victoire de ses joueuses.
First half, just put it this way, first 60 minutes, they are very good side. They are strong, they're going to come at you. And I told the girls, we just need to maintain them.
J'ai dit aux filles, dans les premières 60 minutes, essayez de donner ce que vous pouvez donner, doucement, tout doucement, elles sont fortes. Mais dans les 30 dernières minutes, elles seront plus ou moins fatiguées. Et dans ce moment, il faut pousser, il faut donner le meilleur de vous. Et c'est ce qu'elles ont fait, elles étaient fatiguées vers les 30 dernières minutes. Et on a essayé de maintenir, pour voir ce que vous avez vu tout à l'heure.
First, I once said, when I was in this press conference, I was asked if as has for our Hudu team. And I said, we only played them twice. Let's see when we play them for the third time if it makes a huge difference in the team.
Cette équipe de ASFA, nous avons juste joué avec cette équipe à juste à deux reprises. On ne pouvait pas définir quelle est l'équipe qui était difficile pour nous à confronter. On ne pouvait pas aussi se dire que cette équipe de ASFA était l'équipe la plus difficile. Dans notre équipe, la plupart de nos filles jouent dans l'équipe nationale. Et elles ont cette expérience-là aussi. Et aujourd'hui, avec ASFA, en jouant, cette équipe-là de ASFA également a des joueuses qui ont une grande expérience dans cette compétition-là. Et aujourd'hui, nos filles gagnent en expérience dans cette compétition de Women Champions League.
Les propos de Mohamed Amin Alioua, coach de l'AS FAR, et Jerry Tchabalala ont été recueillis par notre envoyé spécial à Korogo, César Yao. Place au dossier d'actualité, journée nationale de la paix à Divo. En cette 27e commémoration, qu'attendent les populations de Divo des pouvoirs publics en matière de consolidation de la paix? Les réponses avec notre correspondant de région, Abel César Cassin.
Pour rappel, le 15 novembre a été décrété journée de la paix en Côte d'Ivoire en 1996 par Henri Konabé Diéhé, à cette époque président de la Côte d'Ivoire, un an après une élection présidentielle entachée de violence, pour rappeler aux Ivoiriens le besoin de vrai pour la paix. À Divo, la cohésion sociale est fragile. Quelle valeur les populations accordent-elles à cette paix? Le président des confessions religieuses de l'Ojibwa et responsable d'ONG, Annie Kakou, rappelle la spécificité de Divo.
Pour peu de choses, c'est la violence. Pour peu de choses, les gens sont stressés, surtout pendant les élections comme ça. Les gens fuient pour aller dans les campements parce qu'ils ont déjà vécu des situations difficiles.
Ces propos sont renforcés par les résultats d'une étude menée en 2022 par le CIRES, Centre ivoirien de recherche économique et sociale, à la demande du district de Godjibwa, rendu public ici par la sociologue Cécile Koufi Afoué.
Les conflits fonciers venant en tête de liste dans le Godjibwa. Après les conflits fonciers, viennent les conflits dus aux violences électorales.
Ainsi dégrossie, quelle est donc la valeur de la paix et de cette journée du 15 novembre pour la présidente d'une ONG locale, Saint-Tiche Mélin?
La paix est d'abord primordiale. Donc c'est quelque chose même qui devait être célébré chaque jour. Parents de l'État, je pense qu'ils devaient amplifier, organiser des activités intercommunautaires, interreligions, et qui allaient encore plus amplifier la paix et la cohésion sociale.
Voici le regard du président de l'ONG, le cercle des alliances interethniques sur la journée nationale de la paix, Luc Kedi.
C'est une bonne chose, mais pour nous, au cercle des alliances, nous disons que c'est creux. Pourquoi? Il faut donner un sens à la paix. C'est la même chose quand on dit vivre ensemble. Vivre ensemble doit tenir compte de nos valeurs culturelles, telles que les alliances interethniques. Puisque ton allié, là, il est déjà roi. Quand il arrive, en tout cas, mon ami, tu es chez toi.
Selon le député de Divo sous-préfecture, Kwaku Alamba Mermoz, la journée du 15 novembre est un symbole dans la vie de notre pays.
C'est de se rappeler du père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, c'est qui nous a inculqué la paix, le vivre ensemble. Pour moi, chaque Ivoirien doit l'avoir dans son cœur tous les jours, dans toutes les occasions. Se rappeler toujours que nous devons vivre en paix pour que cette Côte d'Ivoire soit meilleure.
Ancien ministre de la Défense, Lida Kwasi Moïse, originaire de l'Ojibwa, souhaite, après la journée du 15 novembre, la poursuite d'une paix durable par des actions marquantes.
C'est de tout faire pour que la Côte d'Ivoire reste en paix et que ceux qui ont été commis pour assurer son développement fassent leur travail. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que cette journée qui est dédiée à la paix, la fasse comprendre à tout le monde qu'il vaut mieux travailler pour la paix. C'est pourquoi je plaide encore pour que tous ceux qui sont en prison depuis 2011 et autres, que le président fasse tout pour les libérer et que le président intensifie le dialogue avec les autres formations politiques, avec les autres leaders politiques, pour que le pays retrouve véritablement une paix.
Peut-être qu'un jour, cette commémoration prendra un visage identique au 14 juillet en France. Le rêve est permis, s'il y a la paix. Dossier Abel César Cassin.
À présent, l'invité de la rédaction, le dernier temps fort de ce journal. Aujourd'hui, place est donnée à la présidente fondatrice de l'Union républicaine pour la démocratie, URD. Daniel Bonny-Clavry revient sur deux dossiers majeurs, à savoir la Journée nationale de la paix et l'annonce faite le dimanche 12 novembre 2023 par Guillaume Soro. Sous le coup d'une condamnation à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État, Guillaume Soro, qui vit en exil depuis 2019, a annoncé qu'il va mettre fin à cet exil, sans préciser la date de son éventuel retour en Côte d'Ivoire. Sur ces questions, Daniel Bonny-Clavry est en entretien avec Soro Adams.
Bonjour Madame la Présidente, de Daniel Bonny-Clavry.
Bonjour Monsieur Soro.
15 novembre 2023, la Côte d'Ivoire, votre pays, a observé la Journée nationale de la paix. La Journée nationale de la paix, qu'est-ce que ça vous inspire, Madame la Présidente?
Eh bien, il faut se rappeler qu'il y a 30 ans, c'était en 1996, le président Henri Konabé Diéhé instituait la Journée de la paix pour inscrire notre pays dans cette trajectoire. Et cette commémoration s'accompagnait alors de prières interconfessionnelles réunissant toutes les grandes religions de notre pays. Aujourd'hui, cette commémoration se poursuit et nos autorités nous demandent, je cite, hein, de ne pas oublier le passé, mais d'en faire une analyse et de pardonner pour avancer et amener nos enfants à partager cette culture de la paix. Théophile Boigny disait que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Oui, c'est un comportement. Cela veut dire que non seulement le citoyen doit amener le citoyen, mais aussi tous ceux qui nous gouvernent, à poser des actes de bonne gouvernance, de justice, d'équité, de chances égales données à tout citoyen, bien au-delà des chapelles politiques. Or, nous vivons encore sous le rattrapage ethnique, qui est une injustice qui va à l'encontre de nos usages politiques, mais aussi à l'encontre de cette diversité dans la paix dont nous a parlé le ministre en charge de la solidarité.
Rattrapage ethnique, vous dites ?
Oui, je me suis bien exprimée de cette manière. Le rattrapage ethnique est une injustice qui va à l'encontre de nos usages, mais aussi de la diversité dans la paix dont parle le ministre en charge de la solidarité dans son message qu'elle a fait sur la journée de la paix.
Mais c'est quoi exactement le rattrapage ethnique selon vous ?
Ben écoutez, prenez la liste des résultats d'un concours administratif et vous verrez que sur la liste qui nous est donnée, sur 100 personnes, vous en aurez 80 qui seront de la même région territoriale de la Côte d'Ivoire. Or, la Côte d'Ivoire s'est bâtie sur une géodiversité et justement, pour prendre en compte cette diversité, il fallait donc contenter et surtout amener chaque région de Côte d'Ivoire à se retrouver et à se considérer aussi importantes les unes que les autres. Donc c'est pour ça que j'ai voulu et j'ai tenu à parler du rattrapage ethnique. Alors vous savez, je pourrais multiplier les exemples, mais à mon sens et au sens de l'URD, il ne s'agit pas simplement d'exprimer des mots au cours de cette journée. Il a été dit, laissons le passé derrière soi. Excusez-moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on ne laisse pas un passé derrière soi. Un passé, il ne s'efface pas. Il s'écrit dans les livres d'histoire en s'appuyant sur un bilan, sur des vérités, sur des actions, et qui doivent au contraire faire en sorte que les événements qui ont menacé la paix ne se reproduisent plus et que cette volonté exprimée par tous puisse enfin apporter aux Ivoiriens l'harmonie, l'entente, la solidarité et le retour à la concorde auquel nous aspirons tous.
Madame la Présidente Danielle Bonnic-Lavry, dossier Guillaume Soro, qui a décidé de mettre fin à son exil et depuis quelques jours est dans les environs de la Côte d'Ivoire, disons dans un pays presque voisin de la Côte d'Ivoire. Le dossier Guillaume Soro, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Écoutez, moi je suis très légaliste. Hein. La Constitution ne reconnaît pas l'exil. Alors déjà, je trouve anormal que nous ayons de nos fils qui soient depuis 4 ou 5 ans en exil. Donc il faut qu'il revienne. Il a décidé par lui-même de mettre un terme à cette vie de fugitif qui doit être quelque chose d'extrêmement pénible sur un plan personnel. Et on voit les conséquences physiques que cela a pu avoir sur lui. Nous nous en inquiétons. Il a choisi de se rapprocher de la Côte d'Ivoire. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est peut-il, doit-il revenir en Côte d'Ivoire ? Doit-il ? Oui, parce qu'il est ivoirien. Peut-il ? Ça, c'est autre chose. Parce que, bon, il est sous le coup de poursuites judiciaires. Bon, l'affaire qui sépare le président Alassane Ouattara de Guillaume Soro, maintenant, est devenue une affaire, je dirais, familiale. C'est une affaire intime. Alors à partir de là, il y a des paradigmes qui ne sont plus tout à fait rationnels, que nous ne connaissons pas. Donc ça rend la situation beaucoup plus compliquée.
Je vous remercie, Madame la Présidente Danielle Bonnic-Lavry.
Je vous en prie, Monsieur Soro, je vous en prie. Au revoir et bonne journée de la paix.
C'était l'invité de la rédaction et c'est ici que se termine ce journal dont voici les titres majeurs. Un atelier de renforcement de la cohésion sociale et de prévention de l'extrémisme violent a été organisé dans la région du Bounkani, une initiative du Forum des ONG de la Société civile de l'Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire. Et puis à Madagascar, une affluence modérée a été observée ce jeudi 16 novembre, jour de l'élection présidentielle. Fin de ce journal, la revue de presse avec Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous. Depuis 1996 est célébrée en Côte d'Ivoire la Journée nationale de la paix. Hier encore, la tradition était respectée à travers l'organisation de divers événements pour marquer la 27e.